la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la sérénité ? Si l'on en croit le dictionnaire, c'est l'état d'une personne qui, par sa sagesse et son expérience, reste insensible aux troubles. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce culte va nous inviter à y goûter, à cette sérénité, d'une toute autre manière. Bienvenue donc à ce culte en podcast à écouter depuis chez soi. Voici que nous suspendons le cours de nos activités pour nous relier les uns aux autres par la prière. Voici que nous venons chercher en Dieu la source d'une sérénité profonde pour notre vie. Si petite que soit notre foi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Qu'il nous accueille et qu'il nous guide maintenant. Amen. Faisons maintenant monter vers Dieu notre louange avec le cantique « Toi qui disposes ».
Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 33. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et à l'esclave de devenir comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de maison Béelzéboul, à combien plus forte raison agiront-ils ainsi envers les gens de sa maison ? Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un as ? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Comment peut-on lire ce passage de l'évangile de Matthieu comme une invitation à la sérénité? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de dire que Jésus met la pression, comme on dit, à ses auditeurs et même qu'il les menace? La pression, les auditeurs de l'évangile de Matthieu l'ont déjà. Ce n'est pas simple de faire partie d'une minorité religieuse méprisée non seulement par une bonne partie du judaïsme, mais aussi par la culture gréco-romaine environnante, pour laquelle leur foi est une superstition d'esclaves et de petits gens pas très intelligents. Dans une société où tout se sait, croire en Christ engendre beaucoup d'inconvénients, de conflits dans les familles, sans compter les persécutions parfois. Après l'enthousiasme de la libération intérieure, la tentation est grande pour les nouveaux chrétiens d'avoir une double vie, de garder la foi comme un trésor pour soi, tout en pratiquant les rites d'une religion plus admise. Et dans un autre contexte, celui du XVIe siècle, au début de la Réforme, cette pression s'exerce aussi sur les catholiques qui découvrent un évangile qui les libère du pouvoir des clercs. Le pouvoir, les pouvoirs, ne sont pas du tout intéressés à ce que les gens écoutent leur conscience. Avant d'être physique, il y a une pression psychologique forte, l'accusation d'être orgueilleux, d'être inspiré eux aussi par Belzéboul, l'esprit du mal. Pression sociale aussi. Calvin croque sans concession le portrait de personnes qui sont intérieurement convaincues de la justesse d'une réforme par l'Évangile, mais qui ont peur de trop y perdre, socialement parlant. Ils sont, dit-il, bien contents d'avoir l'Évangile et d'en deviser joyeusement et par et bas avec les dames, moyennant que cela ne les empêche point de vivre à leur plaisir. Or, ce que Jésus dit dans ce passage, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir une double vie, que la lumière de Dieu qui nous atteint, qu'on appelle la grâce, ne s'amasse pas pour soi. C'est une puissance de transformation de nos cœurs et du monde qui se heurtera toujours à de grandes résistances. En somme, si sérénité il y a, la première chose à en dire, c'est qu'elle n'est pas de l'ordre du confort par rapport au monde extérieur. Intérieurement non plus, d'ailleurs. Jésus dit « Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Nul ne sait ce que l'Esprit Saint dit à chacun en conscience. Si c'était juste écrire « Jésus sauve » en tag dans les gares, ou d'oser dire aux passants « Je suis chrétien, Jésus t'aime », on aurait une feuille de route. Non, ce n'est pas évident ni confortable. Il y a à écouter, à discerner ce que l'Esprit nous dit dans le silence du cœur et qui ne vise pas à grossir les rangs d'un parti, mais à être une bonne nouvelle pour des personnes singulières. Et l'on est bien heureux que des chrétiens n'aient pas déversé la même soupe à tout le monde, et cela dans toutes les églises, que par exemple le catholique Vincent de Paul ait tenu ferme au XVIIe siècle sur la dignité des bébés abandonnés, que certains rejetaient comme issus du péché, que le baptiste Martin Luther King ait tenu ferme sur la dignité des personnes noires auxquelles certains se sentaient supérieurs, que la médecin réformée Irène Frachon ait tenu ferme sur la dignité des malades en surpoids, qui étaient comptés pour rien, et l'on pourrait continuer longtemps, sans dissimuler leur identité de chrétien, mais sans en faire non plus une marque à vendre. Ils ont donné à goûter la puissance de transformation de l'Évangile. Et même si notre vie nous paraît bien plus modeste, nous pouvons nous aussi nous mettre à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit à l'oreille dans les circonstances particulières de nos vies. Car Dieu nous libère de la pression.
Et ce passage de l'évangile de Matthieu nous enseigne bien concrètement trois moyens d'alléger la pression intérieure et extérieure qui pèse sur nous. D'abord, Jésus nous enlève la pression d'avoir à réussir. Le monde ne cesse de nous demander la réussite, l'évangile non. Jésus dit « Il suffit aux disciples de devenir comme son maître. Il suffit, comme le Christ, de chercher la volonté de Dieu et de la suivre du mieux possible. » La deuxième manière consiste à nous libérer de la peur de la mort et des persécuteurs. Ils tirent une partie de leur pouvoir de la peur que nous avons d'eux. Ils ne peuvent tuer l'âme, dit le Christ, et même si la violence physique ou psychologique devait se déchaîner contre nous, le Christ nous rappelle que notre être lui-même n'est pas en leur pouvoir. La troisième manière consiste à donner du sens à l'histoire. Maintenant, dans la tourmente de l'aujourd'hui, les puissants, les violents triomphent dans le monde, ou peut-être tout proche de moi. Mais, dit le Christ, il n'y a rien de voilé qui ne doive être dévoilé. Pourtant, l'Évangile ne nous dit pas que nous allons acquérir la sérénité comme une qualité dont on pourrait s'enorgueillir, mais qu'elle nous est donnée dans la relation à Dieu. Et pour cela, Jésus voudrait que nous prenions la mesure de qui est Dieu pour nous. C'est pourquoi ce qui peut nous paraître à la première écoute comme une menace est en fait un appel à une prise de conscience. Jésus ne dit pas que Dieu fait disparaître le corps et l'âme dans la géhenne, le lieu qui symbolise la destruction, mais il rappelle que Dieu en a la puissance. De même, lorsque Jésus dit « Si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux », cela peut sembler une menace. Pourtant, nous savons bien que dans les faits, Jésus a pardonné et combien honoré Pierre. Ce même Pierre qu'il avait pourtant renié trois fois, c'est-à-dire symboliquement complètement renié devant les hommes. Mais là encore, Jésus veut que nous prenions conscience que ce n'est pas insignifiant de l'effacer de notre vie. Il veut nous convaincre que la terre et le ciel sont liés. Autrement dit, que ce qui se passe dans notre vie n'est pas un petit théâtre sans importance, que quoi que nous fassions, Dieu pourvoira, réparera. Il dit que la transformation du monde est déjà commencée dans nos vies et que Dieu veut avec nous emmener le monde vers son accomplissement. Le Dieu que Jésus révèle alors n'est pas le grand horloger qui se désintéresse du monde qu'il a créé, mais il n'est pas non plus le marionnettiste qui tire toutes les ficelles. En employant les images des cheveux qui tombent et des moineaux vendus pour l'équivalent de quelques centimes, Jésus nous montre un Dieu pour qui la création tout entière est précieuse, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, qui aime les êtres vivants bien au-delà de ce dont nous sommes capables. L'Évangile ne dit pas, comme certaines traductions malheureuses l'ont longtemps compris, que les moineaux et les êtres meurent selon que le Père le veut ou le permet. Il dit que rien, dans l'ordre de la création, littéralement, ne tombe à terre sans Dieu. La formulation est étrange. Elle dit, de manière étonnante, non pas que Dieu tire les fils à longueur de temps, mais que Dieu s'est lié au monde, qu'il est là où nous croyons qu'il nous abandonne, au cœur de la perte. Il est en Christ, le Dieu crucifié, tombé en terre, contre toute la sagesse du monde, pour qu'en lui toute vie soit recueillie et transfigurée par la seule force de l'amour. C'est le cœur du christianisme. C'est la seule source d'une sérénité que nous ne possédons pas, mais qui nous est toujours à nouveau offerte par la méditation des Écritures. Amen.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible.
Nous nous unissons dans la prière avec un écrivain africain anonyme. Quelqu'un pleure, Seigneur, quelque part. Quelqu'un, c'est des millions. Quelque part, c'est beaucoup d'endroits. Il y a les larmes du riche et celles du pauvre. Quelqu'un pleure, Seigneur, sauve notre temps. Quelqu'un meurt parce que des êtres humains continuent de s'exploiter. Quelqu'un meurt parce qu'il y a des structures et des systèmes qui écrasent le pauvre et aliènent le riche. Quelqu'un souffre à chaque fois que nous ne sommes pas prêts à écouter l'appel de ton esprit en nos cœurs, à prendre des responsabilités, à faire des choix. Quelqu'un pleure, Seigneur, sauve notre temps. Quelqu'un pleure tout près de nous, sans bruit, à cause de la maladie, de la déception, de la charge trop lourde, de l'attente trop longue. Nous te confions ces vies, Seigneur, pour que tu viennes au secours de leur faiblesse. Avec eux ou pour eux, nous te disons la prière que Jésus nous a apprise.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Recevons la bénédiction par les mots de Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen.